9h sur France Culture. Voici Aurélie Kiefer pour le journal de la rédaction. Bonjour Aurélie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Trois semaines après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, le pape François reçoit François Hollande. Une audience privée qui doit marquer un resserrement des liens entre la France et le Vatican. La précédente visite du président français en 2014 avait eu lieu dans un contexte radicalement différent. C'était après l'adoption du mariage pour tous. La page est maintenant tournée, Christine Monclin.
Le président du mariage homosexuel est aujourd'hui reçu en ami des catholiques. François Hollande, le laïc, vient remercier le pape pour sa solidarité avec la France après l'assassinat du père Hamel. Les deux hommes se sont appelés plusieurs fois depuis les attentats de cet été et le chef de l'État se dit impressionné par le sens de la responsabilité et de la tolérance dont ont fait preuve les leaders religieux dans cette période. C'est une audience qualifiée de privée car traditionnellement l'été, le Vatican, pour des raisons logistiques, n'accueille aucune visite officielle. Mais ce sont bien deux chefs d'État qui se retrouveront au Vatican pour un tête-à-tête et qui parleront lutte contre le terrorisme, crises migratoires et climatiques et surtout dialogue inter-religieux, autant de sujets sur lesquels Paris et le Vatican seraient très proches. Ce faisant, François Hollande envoie aussi un signe amical clair aux catholiques français qui lui reprochent d'avoir une politique souvent trop antifamiliale. Mais pour ne pas aviver les tensions actuelles autour des religions, tout a été millimétré. Seul un moment de recueillement en mémoire des victimes du terrorisme est prévue à l'église Saint-Louis des Français à Saint-Pierre-de-Rome, mais sans caméra et Hollande ne fera aucune déclaration par discrétion, nous affirme l'Élysée, qui incite d'ailleurs les journalistes à ne pas venir couvrir ce déplacement officiellement privé.
Le Premier ministre entre dans le débat sur le burkini. Dans un entretien à la Provence, Manuel Valls affirme comprendre et soutenir les maires ayant pris des arrêtés pour interdire le port de ce costume de bain. Le burkini n'est pas une mode, juge Manuel Valls. C'est la traduction d'un projet politique de contre-société fondé notamment sur l'asservissement de la femme. Le chef du gouvernement ne souhaite pas pour autant légiférer. La réglementation générale des prescriptions vestimentaires, déclare-t-il, ne peut être une solution. Des propos jugés trop tardifs et trop timides par Daniel Fasquel, député maire Les Républicains du Touquet. Il fait partie de ceux qui ont signé un arrêté pour interdire le burkini.
Moi, j'aurais aimé qu'il s'empare de ce sujet bien plus tôt, qu'il n'ait pas attendu que nous soyons plusieurs à trancher finalement le sujet par nous-mêmes pour enfin réagir. Puis je regrette que, alors qu'il a enfin pris conscience de cette difficulté, de ce problème, je regrette qu'il ne s'en empare pas au niveau national et qu'il ne pose pas la question de savoir si notamment la loi sur la burqa n'a pas besoin aujourd'hui d'être révisée. On a un contexte aussi qui a considérablement évolué depuis le moment où cette loi a été votée. Je crois que la question du vivre ensemble est posée aujourd'hui en France et que si on ne tranche pas clairement ces sujets, aujourd'hui, eh bien, ces problèmes reviendront sans cesse et on ne peut pas, sur des sujets aussi sensibles, aussi importants, laisser les maires seuls en première ligne.
Daniel Fasquel, joint par Anne Lamotte. Benoît Hamon se lance dans la primaire socialiste. Il a annoncé sa candidature hier soir dans le journal télévisé de France 2. L'ancien ministre et député frondeur estime que François Hollande, au regard de la déception qu'il a créée dans son propre camp, n'est plus dans la situation de rassembler la gauche. Benoît Hamon fait donc ses propositions. Il défend la reprise du processus de réduction du temps de travail, la mise en œuvre d'un revenu universel d'existence ou encore le développement des formes alternatives d'entrepreneuriat. Il juge aussi nécessaire de revoir notre modèle démocratique. La réforme sur les complémentaires santé profite-t-elle vraiment aux patients? La réforme de Marisol Touraine, en vigueur depuis 8 mois, oblige les mutuelles à plafonner les remboursements de consultations et actes médicaux. Les dépassements d'honoraires des médecins de secteur 2 sont donc moins pris en charge par les complémentaires. L'objectif était d'inciter les patients à consulter des médecins de secteur 1 au tarif opposable et de pousser les praticiens libéraux à baisser leurs tarifs. Seulement pour le moment, Marion Chantreau, les patients semblent être les otages du bras de fer opposant les médecins libéraux à la ministre de la Santé.
Les assurés sont nombreux à se plaindre de la baisse de remboursement de la part mutuelle lorsqu'ils consultent un médecin de secteur 2. Le reste à charge peut représenter jusqu'à 20% du prix de la consultation. Pour certains actes chirurgicaux en libéral, il atteint des centaines d'euros. Magali Léo gère un collectif d'associations de patients.
Ça s'intensifie à mesure que les gens reçoivent les décomptes de remboursement. La surprise, elle dépend à la fois du montant du dépassement pratiqué par le praticien et de ce qu'était le contrat de complémentaire avant d'être réformé. les gens qui sont assurés dans leur entreprise pouvaient avoir des contrats généreux. Il y a une baisse du niveau de prise en charge. Dans des villes comme Paris, vous avez des consultations spécialistes qui sont facilement supérieures à 70 euros. Vous pouvez facilement vous retrouver avec 15 euros de dépassement non pris en charge.
Les médecins qui ont signé un contrat d'accès aux soins avec la Sécu ne sont pas concernés par ce plafonnement. Leurs patients sont bien remboursés, mais ces praticiens sont rares.
Ils s'engagent à modérer leurs dépassements d'honoraires, mais le problème, c'est que le contrat d'accès aux soins n'est signé que par les médecins qui facturent pas des gros dépassements d'honoraires. Ceux qui facturent des gros dépassements d'honoraires n'ont de toute manière pas intérêt à signer le contrat d'accès aux soins.
Seuls 10% des chirurgiens libéraux l'ont signé, selon le syndicat Bloc majoritaire. Ils parlent d'un contrat contraignant qui fige leurs tarifs alignés sur ceux de 2012, sans tenir compte des charges qui augmentent. Pour Gérard Cornillot, économiste dans le secteur de la santé, il faut agir directement sur les dépassements d'honoraires et ça passe par une remise à plat du mode de rémunération des médecins.
On n'a pas voulu attaquer frontalement le problème. Le problème, c'est évidemment de renégocier les tarifs. Il faudrait accepter d'augmenter ces tarifs et en contrepartie, retirer aux médecins la possibilité de demander des dépassements.
Dans un communiqué, le ministère de la Santé rappelle toutefois que la prise en charge par la Sécu a augmenté depuis 2012 et les dépassements d'honoraires ont baissé de 4% en 4 ans.
Ban Ki-moon craint une catastrophe humanitaire sans précédent à Alep en Syrie. Le secrétaire général des Nations Unies mentionne l'usage de bombes barils tuant des centaines de civils. Toutes les parties du conflit échouent à leurs obligations de protéger les civils, ajoute-t-il, avant d'appeler les États-Unis et la Russie à convenir d'un cessez-le-feu de toute urgence. Rentrée politique sous tension en Allemagne, c'est le premier conseil des ministres ce matin pour Angela Merkel et son gouvernement après les attaques terroristes du mois de juillet. Et la reprise s'annonce délicate pour la chancelière alors que plusieurs scrutins se profilent à l'horizon. On retrouve Cyril Sauvageau à Berlin.
Elle paraît bien loin l'euphorie de l'été 2015, quand les Allemands souhaitaient la bienvenue aux réfugiés sur les quais de gare. À l'époque, il y a tout juste un an, Angela Merkel se voulait optimiste. « Wir schaffen das », disait-elle, « nous y arriverons ». Un an plus tard, la chancelière n'a pas retourné sa veste, l'intégration des réfugiés reste sa priorité, mais la confiance a laissé place au doute. Les agressions du Nouvel An à Cologne, puis les attaques du mois de juillet en Bavière, ont profondément ébranlé la confiance des Allemands. En réponse à la menace terroriste, plusieurs mesures sont déjà prévues, plus de policiers et plus de contrôles dans les centres d'hébergement. Mais ça ne suffira pas à enrayer la dégradation du climat politique avec un parti d'extrême droite, l'AfD, qui occupe le terrain sur des questions identitaires. Les conservateurs de la CDU, en perte de vitesse, emboîtent le pas. Ils discutent en ce moment d'une interdiction de la burqa, sujet sensible en Allemagne où la liberté religieuse est sacrée. La rentrée politique s'annonce donc brûlante avec deux scrutins régionaux en septembre à Berlin et en Mecklembourg-Poméranie. Le fief d'Angela Merkel, un vrai test pour la chancelière à un an de la fin de son troisième mandat.
L'horizon s'assombrit encore pour Dilma Rousseff. Hier, la présidente brésilienne, actuellement suspendue et visée par une procédure de destitution, a clamé son innocence dans une lettre solennelle adressée aux sénateurs et au peuple brésilien. Quelques heures plus tard, le tribunal suprême fédéral autorisait une enquête contre elle pour entrave à la justice dans le cadre du scandale de corruption Petrobras. Le temps de ce mercredi, toujours très ensoleillé sur l'Île-de-France et la région centre. Les nuages prendront le dessus cet après-midi de la Bretagne au sud-est. Il fera 23 degrés à Biarritz, 30 à Strasbourg, 31 à Paris, jusqu'à 35 à Nîmes.